Bonsoir mes chers amis, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un jeudi ravioli. Ça faisait une paye hein, qu'on n'avait pas fait ces petits rendez-vous de podcast ensemble. On était assez chargé de mon côté et on se retrouve, eh bien, voilà, mi-octobre, voilà, pour repartir avec cette série. Alors j'en ferai un peu moins que d'habitude, je vais en faire deux par mois et non pas un par semaine, eh bien parce que je suis tout simplement très occupé et c'était une charge qui était trop importante pour moi. Je vous demandais tout d'abord si vous m'entendez correctement. Vous pouvez me formuler ça par exemple dans le commentaire de l'application précédente. je vois qu'il y a des gens qui ont mis des smileys endormis comme ça. Dany, il est où? Il dort. C'est vrai que je me suis réveillé un peu au dernier moment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui probablement ne vous intéresse pas tant que ça. tu penses quoi de Zemmour, s'il te plaît? Un mec a mis ça dans la discussion. On n'en parle pas assez, selon vous, de Zemmour, faut pas exagérer. Mais justement, je comptais quand même faire une 5 minutes sur Zemmour, un point Zemmour, comme je le ferai à chaque fois, vu que la campagne va tous nous passionner, c'est une évidence. Par rapport à sa prestation aujourd'hui, que je trouvais assez exceptionnelle sur CNews. Bon, ça fait 1000 fois qu'il passe sur CNews, mais cette fois en qualité d'invité. Et je l'ai trouvé très bon dans sa critique de Bernard-Henri Lévy. Je ne vois pas comment maintenant les antisionistes du milieu peuvent avoir un doute sur la probité d'Éric Zemmour. Enfin, c'est tout simplement de la mauvaise foi. D'ailleurs, je tiens à vous dire que suite au dernier direct public que j'ai fait il y a environ 2 semaines, où j'ai parlé des anti et pro-Zemmour dans le milieu, Jean Bourbon m'a proposé un débat sur Éric Zemmour dans lequel lui... Bah, tiendra le rôle de l'anti-Zemmour et moi celui qui le soutiendrait. Et j'ai accepté ce débat parce qu'en général j'accepte les débats quand on courtois, quand on me les propose. Je n'ai pas encore décidé de l'endroit où on fera le débat. Moi, ma priorité, c'est de ramener des gens hors de YouTube parce que c'est une habitude qu'il va falloir casser. Vous n'êtes pas sans savoir que Nomos TV, qui est un très bon ami que je considère. Être mon frère de l'autre côté de l'Atlantique a perdu sa chaîne YouTube. Alors je crois qu'il pourrait en créer une autre, mais enfin bon, ça lui a un peu cassé le moral et il va poursuivre son aventure sur Odyssée. Et il a raison, et il a raison. C'est ainsi. Ce qu'on demande au public, c'est d'être mobile, de s'adapter et de nous rejoindre là où on peut encore exister. Donc je pense que ce débat avec Jean Bourbon. Déjà en soi, un débat avec Jean Bourbon contre Arsenault, il y a quelque chose. Même moi, j'ai envie de cliquer, alors que c'est moi l'acteur de ce débat. Et deuxièmement, bon, on a envie de cliquer parce qu'on est des nations, on aime bien ce genre de discussion. Et puis parce que, évidemment, le sujet sera Éric Zemmour. Alors, soit on fera ce débat sur ce canal Telegram, soit, eh bien, nous le ferons sur Odyssée. Donc, je voulais vous le dire parce que je suis en train de travailler à ça. On a discuté avec lui aujourd'hui. Non, tu n'as pas de son, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les autres, n'hésitez pas à me dire si vous avez du son. N'hésitez jamais, s'il y a un problème technique, à me le signaler, soit dans le blabla des volontaires pour les abonnés, soit dans la discussion du blabla normal. Alors, à propos d'Éric Zemmour, que dire? Ce matin, je me faisais cette réflexion, je me disais, mais finalement, il va tellement loin en ce moment. On se demande, nous, sur Internet, à quoi on sert, parce que, très sincèrement, 80% de ses interventions télévisuelles ou radio, si j'étais à sa place, je dirais pas plus, je ne serais pas plus radical. Et partant de là, oui, c'est de votre côté, hein, si vous n'entendez rien, les autres entendent. Sont 8 sur 5, bah, c'est parfait. De toute façon, ce podcast est enregistré, hein. S'il y a des difficultés techniques au moment de la diffusion, du stream, vous pourrez le réécouter sans problème, donc ne paniquez pas. Essayez de changer de navigateur ou de passer d'écouter sur PC si vous étiez sur smartphone ou le contraire. Donc j'écoutais ce matin Zemmour critiquant BHL, Zemmour finalement le juif patriote critiquant le juif cosmopolite BHL. C'est même pas une façon de parler. Zemmour lui-même l'a désigné comme cosmopolite. Et je me disais. D'une certaine manière, je peux comprendre les gens dans le milieu qui sont agacés parce que Zemmour a la possibilité et le désir, hein, on ne peut pas lui enlever ça, le désir, le courage et la possibilité, vu la renommée qui est sienne, de dire des choses que certains d'entre nous, moi et d'autres bien avant moi, ondites dans des conférences obscures nationalistes sur Internet, même en partie, je dis bien en partie, des propos que Soral a pu tenir à 10-15 ans sur certains sujets, pas tous évidemment, pas sur l'islam, mais dans le brio en tout cas. Et c'est vrai qu'on voit Zemmour qui dit ça à télé, à un niveau purement humain, je peux comprendre la jalousie, parce qu'en fait ce n'est rien d'autre que cela. D'un autre côté, j'ai envie de dire à ces gens-là, et à vous aussi, je pense que vous serez d'accord, est-ce que ce n'est pas ce que nous voulions? Est-ce qu'on ne voulait pas un jour avoir quelqu'un qui dit ce que nous, on pense, et ce que des gens comme moi disent depuis des années sur Internet? Est-ce que ce n'était pas le but? Je veux dire, je ne comprends pas comment on peut faire la fine bouche alors qu'on a atteint notre objectif. C'est-à-dire, le grand remplacement, maintenant, n'est plus discuté. Maintenant, personne n'ose dire qu'il n'y a pas de grand remplacement. On va dire que la théorie selon laquelle le grand remplacement est voulu, je dirais, enfin, est une démarche volontaire de la part des élites, ça c'est encore discuté. Mais le fait qu'il y ait un grand remplacement, ça ne l'est plus. Et même le mot grand remplacement apparaît, enfin, on l'entend à la télé quasiment tous les jours en fait. Et ça, bah, c'est parce que des personnes comme Zemmour ont pris le relais de nos propos. Alors je ne suis même pas en train de dire qu'on a influencé Éric Zemmour, ce serait être arrogant, mais je pense que tout simplement, on a été précurseur et maintenant ce qui se dit à la télé nous rattrape en quelque sorte. Et je crois que c'est pas le moment, comme un saumon, de remonter le courant à l'envers. C'est pas le moment de dire ah mais en fait non, finalement on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais quoi? Mais bien sûr que si, on est d'accord puisque c'est ce qu'on dit depuis 10 ans. Je dirais par rage de se dire mais finalement non, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal qu'il puisse dire ça à la télé, vous savez. Et là, tout à coup, ça devient un podcast sur Zemmour. Bah oui, bah. Moi aussi, j'ai envie d'en parler, évidemment, parce que c'est l'actualité. Même si moi, j'habite en Roumanie, bah, la situation en France me bouffe. J'ai vécu presque toute ma vie en France et j'ai envie que ça change. Je veux dire, tous les jours, je croise les doigts pour que ça change. Mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, pour moi, le fait qu'une personne, qu'il soit juif ou pas, on s'en fiche en fait, arrive à tenir le discours que tient Zemmour aujourd'hui. C'est une victoire pour nous. On devrait être fiers. On devrait être content. On devrait être content. Et on s'aperçoit de quoi? Ça, c'est le deuxième point. On s'aperçoit que nos idées, lorsqu'elles sont bien mises en avant par quelqu'un de talent, elles sont aimées des gens. Et ça correspond à une intuition que j'ai depuis des années. Chaque fois que j'ai été invité sur des plateaux où je n'étais pas l'animateur, mais j'étais l'invité, tout simplement, et donc que j'avais affaire à des publics qui n'avaient jamais entendu parler de moi, à chaque fois, j'ai fait un malheur. C'est pour ça que moi, j'ai une forme d'aigreur dans le fait de ne pas être invité dans plus de médias alternatifs. Hein. Je ne parle pas de la télévision, je parle de médias de droite Internet. Oui, je trouve ça regrettable que je ne sois pas invité pour, vous savez, enfin, faire le Daniel, quoi. C'est-à-dire, en gros, ce que vous aimez chez moi, le faire à une plus grande audience qui n'avait jamais entendu parler de moi. Parce que je sais que ce que beaucoup de gens m'ont dit. Au fond, est faux. C'est l'idée qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Les gens ne sont pas prêts. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas le dire comme ça. Vous savez, en 2015, mon objectif de l'année, ça avait été d'employer le mot blanc le plus souvent possible. Ça paraît fou aujourd'hui parce que c'est devenu banal. Mais il y a encore 5-6 ans, dire le mot blanc, c'était tabou. On ne pouvait pas dire, par exemple, je suis blanc, je suis fier d'être blanc, je défends les blancs, il y a du racisme anti-blanc. Le mot blanc écorchait les oreilles, et quand j'ai commencé à l'utiliser en vidéo, des gens m'en faisaient pas le reproche, mais me mettaient en garde, disaient attention quand même, ça se dit pas, le message passerait mieux si tu disais autre chose, nanani, etc., etc. Mais en fait, non, il y a des choses qui ne sont pas dites et qui doivent être formulées parce que bah, les gens au quotidien ont une forme de, je dirais, de lâcheté du quotidien, c'est-à-dire. Ils pensent ces choses-là, leur vie est gâchée par l'immigration, par le vivre ensemble, mais c'est pas le rôle de tout un chacun, eh bien, de porter ses discours sur l'espace public. C'est à certaines personnes de le faire. Et Zemmour le fait à une bien plus grande échelle que moi, évidemment, à la télévision. Et je répète, pour moi, la source de satisfaction, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'il va dire quelque chose devant 500 000, 1 million, 2 millions de spectateurs, en fait, t'as les deux, je sais pas, t'as un tiers ou la moitié des gens qui vont être d'accord instantanément, instantanément. Et en tenant ces discours aussi fermes, simples et droits, eh bien en fait, il fait gagner du temps. Parce que, vous savez, c'est un peu comme la première fois que je suis passé chez Tepa en 2014, j'ai dit des choses que les gens avaient au fond du cœur, voire même qu'ils pensaient. Et les gens n'osaient pas le penser tout haut, le dire tout haut, parce qu'ils disaient, mais je dois être fou, je dois être ultra raciste, il faut que je ferme ma bouche. Et d'un coup, ils ont eu un Danny qui arrivait sur un plateau, qui leur a dit ça, détendu, avec un verre d'eau gazeuse à la main. Ils se sont dit, mais en fait, on peut le penser. Si ce mec le dit, c'est qu'on a le droit de le penser. Eh bien, Zemmour le fait sur des sujets essentiels, comme l'islam, comme l'impossibilité de vivre ensemble, sur le fait qu'il y a une duplicité, ça c'est incroyable. Là, je dirais même, il va quasiment trop loin, en fait, d'une certaine manière, parce que ça nécessite beaucoup de connaissances religieuses, historiques, politiques, pour comprendre ce qu'il a dit ce matin. Mais ce qu'il a dit, c'est très simple. Il a dit en gros à BHL, en fait, vous êtes un communautariste juif, tout simplement, il lui a dit ça. Il lui a dit, évidemment, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, vous ne pourrez jamais être un patriote français parce que vous défendez les intérêts d'un pays, mais surtout d'une communauté, la communauté juive, uniquement au détriment des intérêts des Français en France. Il a beaucoup insisté là-dessus. D'ailleurs, il y a Romain Guérin qui a fait, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Romain Guérin, il a fait une compile, voilà, de 2 minutes, des moments les plus trash, positivement trash. Voilà, de Zemmour ce matin chez Pro. Et je peux vous assurer que c'était historique, de ta manière. C'était historique, je dirais, le discours de Soral sur les juifs mondialistes sans la dinguerie conspire de Soral. Bah donc, du coup, c'était super. Voilà. Il y a Franck Herbert qui me dit, cette soirée Meta TV a été mythique. Mais oui, voilà, c'est. Je cite ça encore une fois, pas pour me mettre au niveau de célébrité de Zemmour, même son niveau de culture et son niveau tout court, mais je compare les procédés. Souvent, j'ai eu affaire, lorsque j'ai voulu faire avancer mes idées, en présenter de nouvelles, changer de paradigme, une ou deux fois, voilà, j'ai proposé de changer de paradigme dans l'islam. C'est comme l'expatriation. Que Zemmour passe ou pas, de plus en plus de Français, parce que Zemmour n'est pas magicien, il va pas, même si notre ami Alexandre Comezoni l'appelle le Sepharad magique, il n'est pas magicien, la France va pas devenir ultra respirable comme c'est du jour au lendemain, même s'il est élu. Donc l'expatriation va continuer de devenir populaire, et ça va être regrettable parce que ça sera populaire à droite quand ce le sera aussi devenu à gauche et au centre, parce que on va dire des discours comme les miens n'ont pas été portés par d'autres médias de droite dont c'est censé être le but, mettre en avant des gens comme moi. Parce que, eh bien, ces gens-là ont une forme de pleutrerie, de veulerie, c'est-à-dire ils veulent rester dans leurs acquis, ils veulent être certains de ne choquer personne. Et même si en secret, ils vont écouter du Conversano, parce que je peux vous assurer que quand je fais une vidéo d'analyse politique qu'elle fait 50 000 vues, bah, je peux vous assurer que tout le milieu dissident l'a vue. Hein. 50 000 vues, c'est pas Tati Daniel qui va cliquer. Hein. C'est pas Momo de banlieue qui va écouter mon analyse de 3 h 30 sur Éric Zemmour ou sur la dissidence et mes clashs. C'est les médias alternatifs eux-mêmes, les mecs qui les tiennent et qui les regardent et qui en décident la programmation, qui écoutent ça. Donc ils vont consommer du Conversano, mais ils vont pas me mettre en avant parce que finalement, eh bien, ils n'osent pas franchir le Rubicon. Et on arrive à cette absurdité finalement où CNews devient, je vous le dis comme je le pense parce que c'est vrai, CNews est devenu plus excitant à regarder pour nous que TV Liberté. C'est une réalité. C'est absolument, absolument une réalité. Je dis pas ça pour être méchant, je dis pas ça pour clasher. Le fait est que je regarde CNews et je ne regarde quasiment plus TV Liberté, quoi. Parce que sur les sujets actuels et eh bien, le conflit interethnique qu'il y a en France, eh bien, il y a plus de, comment dirais-je, de patates sur les chaînes sur lesquelles Zemmour s'exprime. Donc, on est en train de se faire rattraper en quelque sorte par la télé mainstream, mais c'est pas pour me déplaire. C'est la preuve qu'en fait, nos idées, en réalité, ont toujours été en partie populaires quand même, mais que nous n'avions pas voix au chapitre. Zemmour est notre porte-voix, c'est comme ça. Oui, on aurait peut-être préféré que ça soit quelqu'un qui est déjà français de souche. Oui, là-dessus, je suis assez d'accord avec Henri Lesquin. J'aurais préféré que Zemmour soit français de souche et qu'il tienne ces propos-là, d'accord. Mais le fait est que maintenant qu'on est à 7 mois de l'élection, on n'a pas 50 choix. On a Marine Le Pen et Zemmour. Zemmour est meilleur. Point barre. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mon soutien est intégral et je ne me sens en aucun cas en danger en voyant que finalement Zemmour nous rattrape à droite. Au contraire, il offre les conditions d'un monde qui nous sera plus favorable dans les mois, les années qui viennent. Et ça, j'en suis intimement persuadé, même si la censure va continuer de s'aggraver pour nous. Parce que justement, tout sera fait pour que les soutiens de Zemmour, ça vous allez voir, hein, tous ceux qui soutiennent Zemmour sur YouTube et autres vont finir par dégager pendant la campagne. Ça va être un moment compliqué. Il va y avoir, on aura la gueule de bois peut-être suite à la, symboliquement, on aura la gueule de bois suite à cette élection. Mais on va finir par remonter la pente. Et ce qui est certain, c'est que bon, j'ai fait un très long tunnel là, sur Eric Zemmour, mais vous aimez tous en entendre parler parce que ça nous passionne au quotidien. Moi, je suis, encore une fois, je le répète, à 100% derrière lui. Et je terminerai en disant que là où il m'épate, c'est que déjà, moi, je suivais ce qu'il faisait. Enfin, je veux dire, je regardais ses émissions sur CNews, je regardais ses chroniques sur RTL. Et ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'il en gardait sous la pédale pour augmenter encore le niveau de radicalité au moment où sa campagne allait commencer. Et de ce point de vue, il dépasse mes espérances. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'il a réfléchi depuis des années à cette candidature. Et ce qu'il dit aujourd'hui, je pouvais assurer qu'on peut faire des comparatifs, est plus radical que ce qu'il disait il y a 3 mois. Vraiment, 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 vraiment. C'est parfait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il y a mon nom et personne qui nous dit dans le chat, faut pas non plus exagérer sur CNews. Les droitards, ils restent minoritaires. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chroniqueurs de gauche. Il y a beaucoup de sur certains sujets, justement, bah, sur le sujet des juifs, ils sont très 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 prudents. Mais ils permettent à des gens comme Zemmour de s'exprimer avec une liberté totale. C'est-à-dire la hype Zemmour. Qui dure depuis 10 ans, mais qui a augmenté vraiment cette année, elle est liée quand même aux libertés qu'ont pris les éditorialistes et les gens qui tiennent en fait CNews. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment sûr et certain. Il y a eu un avant, un après, pour moi, c'est clair. Alors, maintenant, pour parler de Superman, je change complètement de sujet. Alors, ce que j'ai à dire dessus, c'est assez simple. C'est court, mais je crois que c'est important. Je vais vous lire l'article de France Info à propos de Superman. Parce que je dirais ce qui est nouveau, le blackwashing, ça on commençait à s'y habituer. Le fait que des héros ou des personnages historiques, ça c'est encore pire, qui jouaient en fait qui étaient des personnages blancs, soient joués par des noirs, ça c'est pas nouveau. Mais au niveau de la sexualité, pour l'instant, peut-être parce qu'ils estimaient que le public n'était pas prêt, ou que le public gay, bi, trans n'était pas un public majoritaire pour consommer ces produits-là, on ne voyait pas trop ça mis en avant, on va dire, dans les films destinés aux garçons. Alors je vous lis l'article, on peut le commenter pendant que je le lis, et ensuite je livrerai mon analyse. Comics, le nouveau Superman bisexuel tombera amoureux d'un homme dans sa prochaine BD. Dans cette nouvelle série de Superman, le fils de Clark Kent lutte contre les injustices sociales, le dérèglement climatique ou la crise des réfugiés. Déjà, la phrase veut rien dire, hein. Le fils de Clark Kent lutte contre la crise des réfugiés. C'est déjà, c'est t'es France Info, déjà tu fais une phrase qui est pas jolie en français, quoi. Et trois petits points, il assume sa bisexualité. Tadadam. Dans une bande dessinée qui sortira en novembre, le nouveau Superman, donc en fait, vous savez, Superman, c'est Clark Kent, ce type qui vient d'une autre planète. D'ailleurs, beaucoup m'ont dit, mais on s'en fout qu'il soit bisexuel, de toute façon, c'est même pas un humain, il vient d'une autre planète. Mais c'est pas vrai. La représentation de Superman, c'est en humain. C'est en humain et en homme blanc. Quand tu voyais le Superman de Christopher Reeve, quand tu voyais les Superman, vous savez, Lois et Clark, ou quand tu voyais le Superman avec l'autre acteur, là, récent que j'ai oublié, bon, c'est des blancs costauds qui incarnent la virilité européenne, triomphante. Donc moi, je suis pas d'accord quand on me dit Superman, c'est un extraterrestre. S'il avait la gueule d'E.T., je vous dirais, bon, je m'en fous que E.T. soit bisexuel, effectivement, on s'en fout un peu. Mais là, c'est la figure même de l'homme surpuissant, parce que, en fait, Superman est une allégorie. Superman, c'est l'allégorie de l'Übermensch, en fait. C'est l'homme total qui existe sur Terre pour faire le bien, qui se sacrifient, mais pour des causes nobles, pas par gauchisme, qui se sacrifient quand c'est nécessaire, en tout cas qui ne réfléchit pas à la possibilité de son anéantissement, pour sauver le monde. En fait, c'est un héros. Superman est un super-héros. Mais d'un point de vue allégorique, enfin, c'est une allégorie, évidemment. Personne ne croit vraiment que des Superman existent dans l'univers. Mais quand vous êtes petit, un petit garçon, et que vous regardez Superman, ça vous donne envie de vous dépasser et d'être un homme bon et de sauver les gens au nom de votre esprit de sacrifice, au nom de votre masculinité, ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique finalement. C'est ça, la masculinité toxique, c'est vouloir avoir une emprise sur le monde et que cette emprise soit positive. Voilà, sauver les autres, faire des démonstrations de force pour le bien de sa patrie, pour le bien même de l'humanité. Bon, donc là, il s'agit, l'histoire continue, c'est-à-dire il y a des albums, l'histoire de Superman continue de s'écrire parce que bon, ça n'a pas de fin, évidemment, tant qu'il y a des fans, il y a des gens qui vont, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, mais tant qu'il y a des fans, en tout cas, ça va continuer. Dans un des albums de Superman, Clark Kent meurt, et là, le fils de Clark Kent devient Superman à la place de Superman, sauf que, ah ben lui, disons que lui, il estime qu'il ne faut pas confondre identité et expression de genre. Donc je relis, le fils de Clark Kent tombe amoureux d'un homme et assume son identité de bisexuel, a annoncé lundi l'éditeur DC Comics. Quelle honte. Nouvelle illustration de l'adaptation de la BD américaine à l'évolution des mœurs. J'ai toujours dit que chacun avait besoin de héros, avait le droit de se représenter dans ses héros, a expliqué l'auteur de la BD, Tom Taylor. Donc maintenant, en fait, les bisexuels, ils peuvent se représenter enfin, dans la peau de ce héros, alors que nous, non. Ça c'est toujours marrant, ça c'est en fait l'hétérosexuel blanc, donc le fasciste, lui il a le droit de se représenter dans rien quoi. C'est toujours c'est la dictature des minorités quoi. C'est-à-dire, hey, avant il n'y avait pas de place pour les non-blancs, donc du coup maintenant on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de place pour les blancs quoi. Ah mais on peut pas faire un truc au milieu quoi. Non non c'est ou tout ou rien quoi. Bon allez je continue. Et l'auteur de la BD, Tom Taylor, cité dans un communiqué illustré par un dessin de l'artiste John Timms, où le fils de Superman, John Kent, embrasse sur la bouche un jeune homme, un journaliste prénommé Jay Nakamura. Pourquoi il y a un autre japonais, on ne sait pas. L'annonce de DC Comics est ainsi titrée. John Kent a trouvé son identité. Le nouveau Superman s'affiche comme bisexuel. Ah, excellent. Ah non, mais je suis fan, c'est fantastique quoi. Donc le jour, t'es là, tadalo, je suis Superman, je viens pour vous sauver. Et la nuit, t'es là, je suis un petit peu coquin la nuit, je me transforme en quelque chose d'autre. Le jour, je suis gentil, le soir, je suis un petit peu vilain. Ah, mais il faut prendre ça à la rigolade. Le symbole de Superman a toujours été l'espoir, la vérité et la justice, dit Tom Taylor. Aujourd'hui, ce symbole est quelque chose de plus. Et davantage de gens peuvent se reconnaître dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée. Dans un numéro de Superman paru en août, John Kent, fils de Clark Kent et de la journaliste Lois Lane, se lie d'amitié avec le reporter Jay Nakamura. Donc ils ont déjà préparé le terrain en fait. Dans le précédent album, il devient pote avec ce journaliste. Mais dans le numéro à paraître le 9 novembre aux États-Unis, cette relation va se muer en romance amoureuse. Cet été, la rumeur d'un Superman gay et d'un coming out de super-héros avait agité les publications spécialisées et les sites de fans. Ouais, ce qui est... Le problème, c'est que ben, Clark Kent, il a pu avoir un enfant avec Lois Lane, quoi. Là, John Kent et Jay Nakamura, ça va être compliqué, quoi. Mais peut-être qu'ils vont introduire, voilà, la GPA dans Superman. Après tout, pourquoi pas? Super-héros écolo. Et ce n'est pas la première fois que le BD américaine se veut plus en phase avec la diversité de la société. La série Aquaman avait mis en avant cet été un super-héros noir et gay, tandis que dans la dernière édition de la BD Batman, Robin s'affichait lui aussi comme bisexuel. Bah, c'est génial. Pour Ben Saunders, c'est marrant, ça ressonne un peu comme Bernie Sanders. Pour Ben Saunders, professeur et spécialiste de l'étude des BD et des animés, l'époque est moins corsetée et c'est une très bonne chose. Et je termine, avec comme conséquence que la culture populaire est intégrée, ce que certains savent depuis un moment. Les super-héros ont toujours été potentiellement un peu queer, estime le chercheur. Alors ça, je suis en complet désaccord avec ça. Je finis l'article et je le lis, et j'analyse. Dans cette nouvelle série de Superman intitulée Fils de Kal-El, John Kent est un super-héros aux préoccupations différentes de celles de son père. Il est très impliqué contre les injustices sociales, le dérèglement climatique ou la crise des réfugiés. Passionnant. Alors ça, c'est une vieille théorie. Je vous le donne en mille. Qui a cette théorie? Ben, en fait, ce sont des sociologues, évidemment. Les sociologues, toujours prêts à faire des fausses analyses, c'est incroyable. Déjà que leur discipline n'existe pas, parce qu'elle ne repose pas sur des faits scientifiques. La sociologie est une fausse science. Je l'ai dit et je le répéterai autant de fois que nécessaire. Mais en plus, je dirais même intuitivement, ils se trompent. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ils ont un esprit vicié par un postmodernisme qui les rend en fait complètement, enfin pour moi ce sont des gens, je n'aime pas cette expression parce qu'elle a été galvaudée, dégénérés. Quand j'étais gosse et que je regardais Batman, Superman, Spider-Man, à aucun moment dans ma tête de gosse, je me disais en fait ils sont costumés, on dirait un peu des PD, hein. Mais jamais quoi, jamais. Il faut vraiment avoir l'esprit mal tourné, il faut être un adulte qui pense mal et qui a, en fait qui si tu cherches des symboliques sexuelles, tu vas toujours en trouver. Ça, c'est la spécialité des sémiologues du cinéma et des sociologues à la con, c'est qu'ils vont toujours chercher des significations cachées. D'accord? Un super-héros enfile une cape parce que c'est le prestige du costume. C'est-à-dire, en gros, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je porte un costume. Et comme ces gens sont en général surhumains, à l'exception de Batman, qui lui, en fait, est un humain qui a de grandes capacités physiques, mais qui n'a pas de super-pouvoir, de pouvoir magique. En fait, les autres sont accoutrés comme ça pour, je dirais, les différencier des humains qu'ils dominent par leur capacité physique hors norme. Mais en aucun cas, il y a une homosexualité cachée dans les histoires de super-héros. C'est des conneries. C'est des conneries. Voilà, c'est vraiment, c'est du niveau, vous savez, des bouquins de psychologie magazine ou des bouquins pour femmes, féminins, où en fait tu vas lire un article sur deux, on va te dire, mais en tout homme il y a une part de féminité et ceux qui la refusent sont plus homosexuels que les autres, quoi. Mais non, c'est juste qu'en fait, on est des hommes, on a besoin de rêver surtout quand on est enfant, adolescent, on a besoin d'avoir des modèles, même des modèles mythologiques. Et on a envie, en fait, de rêver à quelque chose de plus grand que nous. Donc, dans le passé, bah, c'était les grands conquérants, les grands guerriers, ceux dont on nous racontait l'histoire, même si on ne les avait jamais rencontrés. Bah, c'était les grands mythes païens. Ensuite, les grands héros, je dirais, même les grands héros romains, les grands héros grecs. Enfin, voilà, l'histoire de l'Europe est émaillée comme ça de ce genre de modèles masculins ultra virils. Qui ont existé ou qui ont existé à travers, on va dire, des univers fictifs pour pousser en fait les garçons à devenir virils, à poursuivre l'idée du bien et à avoir des modèles qu'ils n'ont pas forcément dans leur vie parce que ben, nos papas sont des gens assez banals souvent, donc on a besoin en fait de rêver à plus, c'est pour ça que ça fonctionne. Et l'autre exemple que je donnerais, tout à fait Alain GT, les enfants sont attachés aux super-héros virils qui explosent des criminels sans autorisation. Et oui, et pourquoi ils sont habillés avec des couleurs flashy? Parce que les enfants aiment les couleurs flashy. Je ne sais pas si vous imaginez, je vais relire la phrase, parce que moi elle m'a choqué de... Merde, j'ai coupé la page. De fausseté en fait. C'est-à-dire en gros, selon cet analyste à la con, on revient au Superman originel, c'est-à-dire... Un mec qui est forcément queer parce qu'il porte une cape et un costume bleu-rouge un peu flashy. Donc ça veut dire qu'en fait que le mec c'est un trave depuis le début. Mais c'est le contraire de la vérité. J'insiste, ça paraît con voilà, de s'énerver, même je m'énerve tout seul pour un sujet qui paraît dérisoire. Mais des millions d'enfants ont rêvé à Superman parce que quand on est un enfant, moi je sais parce que j'ai des enfants, les enfants aiment les couleurs flashy. D'accord? Quand on est adulte, on préfère le noir, on préfère quand on est un homme, le gris, le blanc, le beige. Par exemple, quand on choisit des vêtements, à part quand on est quand on aime la sape à l'africaine, on préfère ces couleurs-là pour s'habiller. Mais lorsqu'on est un enfant, fille ou garçon, on préfère les couleurs flashy. C'est pour ça que Superman, Hulk, pourquoi Hulk est vert fluo? Parce qu'il est queer. Mais n'importe quoi, parce que quand t'es un garçon et que t'as 6 ans, t'es là, waouh, ouais, il est vert fluo, waouh, ouais, mon œil est irrésistiblement attiré par ce truc qui est vert fluo. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le super-héros que préfèrent les adultes, c'est Batman. Parce que Batman, déjà, c'est un humain, C'est un humain qui s'est entraîné et qui est animé. Finalement, quel est le super pouvoir de Batman? Il a la haine contre l'injustice, en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui parle même aux adultes. Et sinon, il est habillé en noir. Il est habillé en noir. Il est stylé, en fait, Batman. Donc moi, déjà, j'aimais Batman quand j'étais petit, mais ça me faisait un peu peur, l'univers de Batman. Et maintenant, je n'aime que Batman. Si vous voulez me traîner au cinéma pour un film de super-héros, le seul que j'irai voir, à l'extrême rigueur, c'est Wolverine, parce que je trouve que son truc là avec les avoir des lames comme ça au bout du poing, je trouve ça stylé. Mais sinon, ce serait Batman, parce que on se rapproche, quand vous regardez les Batman de Nolan, même si ça reste un film de super-héros, en tant qu'adulte, je veux dire, il y a quelque chose, on peut rester accroché. Voilà. Bon, alors pourquoi je vous dis que c'est bien selon moi? Ah oui, il y a autre chose dont je voulais vous parler. On le savait, mais là c'était confirmé, on avait plus de détails. Le nouveau Seigneur des Anneaux qu'ils vont faire, qu'ils vont sortir, déjà je vois pas l'intérêt, parce qu'en fait le Seigneur des Anneaux c'est pas si vieux, c'est quelque chose qui a 20 ans. Oui, tout à fait Arthur, j'aime bien Iron Man également. Le Seigneur des Anneaux ça a 20 ans, ça n'a pas pris une ride, je dirais même techniquement. Encore 2-3 ans, j'en ai revu un, ben, j'ai revu le premier. Il n'y a pas lieu déjà de faire une nouvelle version de quelque chose qui est parfait. Bon, ça c'est un avis purement artistique. Mais évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher de le refaire. Parce qu'en fait, Le Seigneur des Anneaux, c'était un point de repère, c'était même une œuvre, je ne sais pas, nation, mais dans lequel beaucoup d'Européens ont trouvé refuge. Parce que c'est un univers qui était complètement européen. C'est une histoire, on en a déjà parlé, hein, mais c'est une métaphore en fait de la lutte de l'Occident éclairé face au peuple sombre en réalité. C'est ça le Seigneur des Anneaux, on le sait. Et même si ça n'est pas formulé comme ça dans les films de Peter Jackson, parce que les films de Peter Jackson sont fidèles quand même à l'univers de Tolkien, et bien c'est ce qu'on ressent. Alors ils ont fait un Seigneur des Anneaux avec bah, toute la bande quoi. Attendez, je remonte un peu. Voilà, donc il y aura des noirs évidemment, il y aura des rôles qui devaient être joués par des hommes qui sont joués par des femmes. En fait, en gros, ils ont, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs avec les ayants droit de Tolkien, mais ils ont simplement modifié les personnages historiques des Seigneurs des Anneaux. Voilà, donc déjà, j'espère que vous ne le regarderez pas, même par curiosité sinistre. Voilà, je vois pas pourquoi vous feriez des vues, vous abonneriez à Amazon Prime. En plus, il faut être abonné. C'est l'inverse de Super Daily Life, quoi. Super Daily Life, tu t'abonnes pour avoir plus de ce que tu aimes, d'un truc qui te fait du bien, qui est un européanisme intransigeant, voilà, avec un mec rigolo comme moi qui a tes idées. Et en fait, il y en a, ils vont s'abonner à Amazon Prime juste pour se faire du mal. Et que l'univers qu'ils ont aimé il y a 20 ans leur soit sali comme ça devant eux, un peu comme si la femme que vous aimez est gigotée comme ça, et puis on lui jette de la merde sur le visage, et vous payez pour regarder ça. Bon, alors ça paraît être mon titre de l'émission de ce soir, genre en quoi c'est bien, ça paraît un peu provocateur, mais je vais vous dire ce que je crois. Je crois que pendant longtemps, les jeunes blancs, les blancs tout court, n'ont pas vu l'Occident décliné, n'ont pas vu le monde, notre monde en train de s'effondrer, parce qu'ils avaient les yeux rivés sur des altermondes, sur des mondes qui étaient des mondes virtuels. Et je crois vraiment que je le sais d'ailleurs parce que moi-même, pendant longtemps, j'ai été cinéphage, c'est-à-dire que je consommais, en fait, je vivais plus à travers les films que dans ma propre vie. C'est une phase qui a duré 3-4 ans, qui m'a permis, ok, d'acquérir une culture cinéma, mais finalement, je me rends compte maintenant que j'aurais préféré mettre autre chose à la place. J'aurais préféré mettre plus de vie avec un grand V à la place. Et je crois que depuis 40 ou 50 ans, par oisiveté, par indifférence un peu au monde, par individualisme agréable, c'est-à-dire des fois, quand on est seul face à son livre, eh ben on oublie un peu tous les soucis du monde, on oublie même nos soucis familiaux, on oublie des tas de choses volontairement. Et en fait, c'est un refuge. La fiction. Dans un contexte où nous avons à nous battre, en fait sur le terrain politique et métapolitique, la fiction, le seul intérêt de la fiction, ce serait de la créer. C'est-à-dire si on a, et on l'a à un petit niveau, par exemple, rien ne nous empêche d'écrire des romans qui vont dans le sens d'une valorisation de l'homme européen, par exemple. Et c'est ce que j'ai commencé à faire et c'est ce que je vais continuer de faire. Mais pour des arts qui touchent plus de monde, qui actuellement sont plus populaires, comme le cinéma, comme la musique, les clips vidéo, le jeu vidéo, bon, le seul intérêt pour moi de la fiction aujourd'hui, je vous le dis, c'est d'en créer pour transmettre des messages qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, être spectateur de la fiction, ça n'a plus aucun intérêt. Ça avait au moins, ça a toujours enfermé dans un monde virtuel qui est forcément moins. C'est pas que c'est moins bien le monde virtuel. Justement, si ça marche, c'est que ça a un aspect plus addictif, mais qui vous épanouit moins. Voilà, on n'est pas épanoui dans un univers virtuel, alors qu'on peut l'être dans la vraie vie. Moi, j'ai des enfants. Le simple fait de voir mes enfants le matin, ça me rend plus heureux que n'importe quel jeu vidéo auquel j'ai jamais joué. Et ça, je peux vous assurer. De ça à 100%, et tous ceux qui sont parents, je crois, le ressentent aussi. Mais jusque dans les années 90, je dirais, le milieu des années 90, même début des années 2000, tu pouvais gâcher ta vie sur l'autel de la fiction par vice, parce que tu étais un fan de manga, parce que tu étais un fan de BD, parce que tu étais un fan de cinéma. Mais au moins, tu te faisais pas souffrir. C'est-à-dire, tu pouvais consommer des œuvres qui n'étaient pas nocifs, qui n'étaient pas nauséabondes par rapport à ce que tu es, toi, en tant qu'Européen. Et ça, depuis 10 ou 15 ans, ben, ça a changé et c'est de pire en pire. C'est chaque année de pire. Et je trouve vraiment que là, on a une. Vous savez, parfois, quand vous avez affaire à quelque chose qui vous semble abject, il faut prendre un pas de recul et essayer d'analyser et dire, OK, ça semble abject. Mais en quoi je peux en tirer profit? En quoi je peux. Où est le bon là-dedans? Ben, le bon là-dedans, il est là. Et moi, je m'adresse à tous les geeks qui m'écoutent ce soir. Un geek, ce n'est pas seulement quelqu'un qui passe ses journées sur 18-25. C'est quelqu'un qui, de toute façon, eh bien, préfère en général la vie virtuelle à la vie réelle. Et aujourd'hui, que font les gauchistes? Les gauchistes poussent la propagande jusqu'à souiller vos espaces virtuels. Alors moi, voilà la conclusion que moi je tire. Ils vous poussent vers la sortie du virtuel. Et quand vous sortez du virtuel, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste le réel. Voilà. Donc ce réel que vous avez abandonné parce que vous ne croyez pas en la vie, parce que vous ne croyez pas assez en vous-même, parce que je le sais en France, moi j'ai vécu en France 32 ans sur 35, hein, donc je sais très bien ce que c'est vivre en France. Hein. Ne croyez pas que j'ai oublié l'horreur de la vie en France, c'est pas comme si j'étais parti il y a 10 ans, hein. Je suis parti il y a 2 ans et demi, et j'y reviens encore souvent. Vous allez me dire, ouais, ben, le réel c'est gentil, moi au moins j'avais mes BD, je pouvais rêver, alors que maintenant je sors, chez moi il y a 3 noirs, 2 kebabs, et j'arrive pas à me taper une nana, quoi. Oui, mais. Il faut se battre dans le monde réel parce que c'est le seul maintenant dont tu disposes. C'est le seul sur lequel tu as prise. Tu peux faire tes choix. Si tu en as marre de ce pays, il y a la solution, elle existe, elle s'appelle l'expatriation. Ça fait 2 ans que je t'en parle. Si tu es un jeune de 20-25 ans qui est en train d'écouter ce podcast, tu peux partir, tu peux changer d'environnement. Une fois, j'avais dit quelque chose dans un live, il faudrait que je retrouve, mais je pense que c'est, à bien y réfléchir, je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai jamais dite. J'étais dans le live Que faire, il me semble, je crois que ça s'appelait comme ça, que j'ai fait l'été dernier, donc c'était il y a pile un an. Et je disais dans ce live, dans ce long live, comme j'en ai l'habitude, en tant que blanc, vous méritez de vivre entouré de blancs. Et si ce n'est pas le cas, ce droit, parce que vous y avez droit, vous devez aller le chercher. D'accord? Vous devez aller le chercher, vous devez créer les conditions d'un quotidien où apaisé, où vous fréquentez des gens que vous avez envie de fréquenter. C'est votre droit le plus cher et le monde est vaste. Donc si vous n'avez pas ça près de chez vous, allez le chercher ailleurs. D'accord? Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, aujourd'hui, les gauchistes vous envoient un message. Et ce message, c'est tu as voulu te réfugier. Ok, tu as quitté le monde réel. Le monde réel, c'est à nous. Ok, on a les institutions, on a les facs, on a même le pouvoir politique et surtout métapolitique. T'as voulu te réfugier dans ta petite BD Superman? Non! On va aussi te prendre ça. Eh bien, moi, je vous le dis, c'est un signal. C'est le moment. C'est le moment de reprendre le contrôle de vos vies réelles, de faire le bilan et de vous dire, c'est une claque, en fait. En fait, vous allez vous rendre compte, parce que ça arrivera de plus en plus, hein. Aujourd'hui Superman, demain Spider-Man qui va changer de sexe, après-demain en fait Hulk qui aura les traits d'un homme noir, qui évidemment va se taper la nana blanche la plus jolie, etc. Enfin, ils vont continuer comme ça jusqu'à l'overdose. Et vous allez rendre compte qu'en fait, c'est pour ça que moi j'ai à la fois une tendresse pour les geeks parce que j'en connais plein, et aussi un rejet ou plus ou moins une colère contre eux parce qu'ils gâchent leur vie. Ils croient que ils ont trouvé une planque. Et en fait, quand ces univers virtuels sont souillés, qu'est-ce qui vous reste? Bah, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Si votre vie, c'est cette putain de virtualité, eh bien, si quelqu'un, en fait, reprend le contrôle de ces univers et les déseuropéanise, vous l'avez dans le cul. Vous ne pouvez plus rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est si vous êtes un oldies comme moi, et d'ailleurs, ça, je vous invite à le faire, parce que de temps en temps, on ne passe pas sa vie non plus à travailler, on veut se détendre. Il y a mille et une façons de se détendre, il y a le sport, il y a le sport en chambre aussi, c'est pas mal. Mais il y a bien sûr la consommation culturelle. Bah, en fait, c'est simple. Vous voulez ne pas être souillé par de l'idéologie, vous regardez un film qui a été produit avant les années 90, c'est tout quoi. Avant les années, même, je dirais 95, ou jusqu'en 95, c'est à peu près là que ça a commencé selon moi. Voilà, vous lisez un bouquin qui a été écrit avant 1970. En français, par un français qui parle bien le français. Voilà, si vous voulez pas être souillé tout en continuant de consommer des biens culturels, il faut aller dans le passé, c'est tout. Aujourd'hui, tout est souillé. Pratiquement chaque fois que j'essaie de regarder un film, même un film qui n'est pas produit par Netflix, il y a tout, en fait, tous les producteurs et tous les réalisateurs subissent les influences de cette idéologie de mort. Et je peux vous assurer qu'à un moment, je dirais les années 70, 80, 90. Tu pouvais avoir une belle vie, mais en étant un geek. Parce que dans ces paradis artificiels dont sont peuplées la fiction, il y avait du beau, d'accord? Et maintenant, c'est en train de se terminer. Donc, en fait, rationnellement, il y a un moment où, effectivement, la vie virtuelle avait quelque chose de plus plaisant que la vie réelle. Eh bien, aujourd'hui, puisque les espaces virtuels sont contaminés, je dirais à niveau égal de contamination, autant rester dans le monde réel, d'accord? Et je m'adresse ce soir aux geeks vous savez, le profil de mec un peu fortiche en informatique, mais toujours fourré chez lui, qui a 30 ans, qui est de demi-puceau, socialement, qui est mal à l'aise et qui te met aussi mal à l'aise, etc. Mais en fait, ce genre de mec, quand t'apprends à les connaître, en général, c'est des crèmes, et surtout, c'est des gens intelligents, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est les geeks en général, hein? Un geek, c'est quoi? C'est juste un blanc à haut QI. Voilà quoi. Et moi, on aura beau dire, moi, même si je n'ai pas un profil de geek, j'aurais toujours de la tendresse pour les blancs à haut QI. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de mettre deux claques aux blancs à haut QI de type natio qui se réfugient dans ces paradis artificiels comme les comic books. Pendant co combien de fois? C'est un univers, ça, c'est marrant, je ne me suis jamais fait prendre à ça. Jamais quelqu'un a réussi à me passionner pour ces trucs-là. Mais j'ai rencontré tellement de mecs qui me disaient, mais tu vois, c'est génial les comics, c'est la littérature moderne, c'est quand même faux, hein, faut quand même pas exagérer, c'est pas le même niveau d'intelligence et de profondeur. Et surtout, ça c'était vrai pendant un temps, en gros, c'est un monde où les Européens sont au top, quoi. C'est comme si les comics étaient bloqués éternellement dans les années 50. Mais vous voyez, ça a pris le temps que ça a pris, mais ils ont fini par venir sur ce terrain-là. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Rebrousser chemin. C'est simple. Il y a une porte qui est fermée. Tu restes pas bloqué devant la porte comme ça à taper, à te plaindre, genre c'est dégoûtant, non on veut pas qu'il soit bisexuel. Enfin, je trouve qu'il y a un côté même minable à essayer d'obtenir quelque chose d'un. Regardez à quel point c'est. Enfin, prenez du recul en fait, c'est un peu comme quand on se regarde en train de se branler, ça a quelque chose d'un petit peu de ridicule. Moi je vois qu'il y a des fans là, qui disent oui, on va envoyer des lettres pour se plaindre, etc. Bon d'accord, en tant que consommateur, vous pouvez vous plaindre que Superman est bisexuel alors que c'est pas votre délire, mais enfin. Regardez le niveau de pathétique, c'est-à-dire écrire je dis ça pas pour humilier, mais pour faire réagir, pour blesser l'orgueil amicalement. C'est ça ce que je voudrais faire ce soir. Superman ou d'autres trucs, hein. Le truc le plus commun, c'est les films, les séries. Moi, je connais plein de gens qui continuent de regarder des séries, qui ont une distance critique en disant putain, c'est complètement gauchiste et tout, mais qui en regardent plein et qui n'arrêtent pas. Qui n'arrêtent pas et qui, une fois qu'ils ont regardé 60 épisodes d'une série gauchiasse jusqu'à la trogne, vont se fendre d'un commentaire qui sera peut-être supprimé sur les pages des réalisateurs pour dire, mais quand même, ça respecte pas la vraie loi historique, c'est du racisme anti-blanc, etc. Donc en fait, on quémande comme ça l'attention d'idéologues, parce que ces gens ne sont pas des artistes, qui ont déjà fait leur choix. C'est-à-dire qui ont déjà fait le choix de détruire notre monde. Et j'ai un scoop pour vous ce soir. Ils le font exprès. Ils le font exprès. Ça, faut le retenir. C'est pas par hasard, on va leur apprendre que, vous savez, c'est pas bien pour la construction psychologique de l'enfant d'avoir un héros qui, sur le plan identitaire, ne sait pas trop qui il est, etc. Ils le font exprès, d'accord? Donc, cette contamination des espaces virtuels, elle est faite exprès, n'importe quoi, exprès. Elle est voulue. Voilà, elle est voulue à 100%. Donc, moi, je dis aux geeks fans de BD ou autres, hein, vous pouvez étendre ça aux jeux vidéo, bien entendu. Au cinéma, à toutes les formes de sous-culture populaire qui aujourd'hui sont également contaminées par l'idéologie dominante. Le message à retenir, c'est que ça n'a plus lieu d'être. Vous n'avez plus à passer du temps là-dessus. Un vrai homme qui a dépassé sa vingtaine, qui a 22, 23, 24 ans, eh bien, il essaye quoi? Il essaye de gagner du pognon avec un boulot épanouissant, si possible. S'il n'en a pas les compétences, soit acquérir les compétences, soit focaliser sur l'argent pour nourrir une famille qu'il a ou qu'il va avoir, pour se mettre lui-même en sécurité, pour, s'il a décidé de rester dans des pays envahis comme la France, eh bien, vivre le mieux possible, et ça, c'est uniquement possible quand on a de l'argent, soit en fait, quand on fait le. Il y a deux possibilités, par exemple, en France, pour échapper relativement ou totalement à un voisinage diversitaire. Soit en fait, vous allez à la campagne, vous aurez une vie frugale, mais si en fait vous aimez cette vie-là solitaire et que vous avez la chance de trouver une compagne qui aime ça aussi, vous allez avoir une belle vie. Vous allez avoir une belle vie modeste, mais qui ne sera pas une vie de névrose. Voilà. Soit si, parce que vous aimez ça ou parce que vous l'avez décidé pour X ou Y raison, vous vivez en ville, là, le seul moyen pour vivre en ville, heureux, et amener vos enfants, ceux que vous avez ou ceux que vous aurez dans de bonnes écoles, c'est de gagner de l'argent. C'est de gagner de l'argent. Ça, en soi, c'est un objectif. C'est un truc qui fait que tu n'as pas le temps de lire des comics toute la journée. À part si tu en es créateur et que tu gagnes de l'argent avec ça, vous voyez? C'est comme les gens qui me disent, ouais, le jeu vidéo, ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est cool, mais au fond, c'est un divertissement et c'est du temps perdu, quoi. Donc, tu peux t'en administrer à dose homéopathique parce qu'on a tous besoin de se divertir, mais il faut jamais oublier que la vie réelle est mille millions de fois plus importante que la vie virtuelle. Et pourquoi je dis encore une fois que c'est bien, c'est que cette souillure des œuvres qui sont un peu les mythologies modernes, en fait, hein, les super-héros sont les dieux païens d'autrefois, en quelque sorte, on va le dire comme ça. Eh bien, ça vous en dégoûte. Et une fois que vous êtes dégoûté du virtuel, que vous reste-t-il? Le réel. Voilà. Et le réel vous tend les bras parce que même dans des pays où c'est une catastrophe comme la France, on s'aperçoit de quoi? Et c'est là où je retombe sur mes pattes. Il y a le phénomène Zemmour. D'accord? Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Je ne veux pas vous dire que tout va changer dans 7 mois et moi, je pars de Roumanie, je reviens m'installer en France. Mais c'est jamais fini. Le réel, vous n'êtes jamais au bout de vos surprises avec le réel, d'accord? Donc vous pouvez décider d'avoir une prise sur vos vies. Et l'enfermement dans la vie virtuelle, le temps qu'il dure et que vous ne réalisez pas que vous êtes enfermé, en fait, vous avez un plaisir, le plaisir des paradis artificiels, tel qu'on a parlé d'ailleurs Charles Baudelaire dans ses poèmes et aussi ses poèmes en prose. Mais en fait, c'est comme une drogue. Quand vous en sortez, vous vous rendez compte que vous avez simplement perdu du temps. Et aujourd'hui, vous avez cette chance unique, geek que vous êtes pour certains. D'être dégoûté par ces univers-là pour de revenir comme ça, comme une balle qui rebondit sur un mur vers la réalité. La réalité en France, elle est âpre, elle fait chier, elle est dure, mais quand on l'affronte comme un homme, eh bien, on se rend compte que si on, voilà, on arrive à se blinder contre la dépression, il y a toujours des objectifs à remplir dans la vie qui sont 100 fois plus épanouissants que la vie virtuelle. D'accord? Le simple fait que, prenez-le comme une aventure, vous avez 24-25 balais. Vous n'avez jamais une relation agréable avec une femme, mais cherchez-la cette femme. N'arrêtez jamais de la chercher. Mettez-vous sur tous les sites de rencontre en même temps. Dès que c'est pas, dès qu'il fait pas moins 15 dehors, que c'est le printemps, vous sortez, vous allez aborder toutes les filles que vous pouvez dans la rue. Vous allez les aborder au restaurant. Dès qu'un ami a une copine, si cette copine a des copines, vous essayez de vous mettre dans l'équation. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça en soi. Les gens qui me disent, ouais, j'ai pas le temps, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, etc. Moi, je vous le dis, pour moi, un des problèmes, il y a plusieurs problèmes, il y en a des tas. Le problème étant que la vie est incroyablement difficile psychiquement en France, parce que tout est fait pour nous rabaisser, pour rabaisser l'homme blanc. Ça, c'est vrai. Mais on peut lutter. On n'est pas des fragiles, théoriquement. Donc, le moyen de lutte, c'est d'embrasser la difficulté du réel comme si c'était une compétition sportive, en quelque sorte. Et moi, je vois quoi? Ben, je vois beaucoup de renoncement. Je vois que des gens partent perdants, alors que ce sont des gens qui peuvent être intelligents, qui ont du potentiel. Je vois que la fainéantise est un fléau. C'est-à-dire que dans une journée, on peut faire énormément de trucs. Et maintenant que j'ai deux enfants, je peux vous assurer que, avant que j'aie des enfants, je ne m'en ai pas compte à quel point on peut faire des trucs dans une journée. Maintenant, je le sais, parce que m'occuper des enf mes enfants, ça prend mes trois quarts de la journée. Et il me reste un quart pour faire tout ce que je dois faire. Et donc, en fait, je n'ai pas assez d'une journée pour faire tout ce que je veux faire. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est l'enfermement, l'auto-enfermement. Dans des plaisirs artificiels, dans des addictions, dans des petits plaisirs, en fait, qui va de pair avec la flemme, d'ailleurs. Et bien ça, pendant longtemps, les divertissements qui nous étaient proposés étaient si addictifs qu'on ne se rendait pas compte de leur nocivité. Parce qu'ils deviennent idéologiquement insupportables, on va arriver à une phase où les gens vont en être sevrés. Et ça, c'est très bien. Donc moi, je dis plus de Superman B, plus de Batman unijambiste, plus de Spider-Man nain, plus de dieux païens noirs, parce que qu'une fois pour toutes, les blancs arrêtent de passer leur vie devant un putain d'écran, quoi. Voilà, c'est. Et encore une fois, parce que je me suis beaucoup adressé aux geeks ce soir, faites de votre geekisme, faites de votre geekitude, votre geek attitude, un super pouvoir. C'est-à-dire, vous y touchez en informatique. Et eh bah ben, putain, au lieu de passer la moitié de la journée sur les jeux vidéo, mais devenez codeur professionnel, devenez un développeur freelance. Dans tous les pays d'Europe de l'Est, vous allez gagner plus de fric que 90% des habitants ici. C'est littéralement le boulot de l'époque. Puisque vous êtes geek, dire arrêtez de troller sur des forums qui n'existeront plus dans 6 mois, quoi. Pensez à votre avenir. Je sais qu'on ne peut pas modifier totalement sa nature. Moi, je serai toujours un littéraire. Si vous me mettez devant un bouquin de science pure, devant des maths, si je m'accroche, je vais arriver à comprendre, mais ça va pas me faire plaisir. Donc, si vous êtes un geek, ok, vous n'allez jamais devenir purement un backpacker, un mec qui aime voyager ou un mec qui aime prendre des risques, etc. Mais vous pouvez forcer en partie votre nature et vous pouvez, je dirais, modifier vos mauvaises habitudes du quotidien pour, je le répète, puisqu'on parle de super-héros ce soir, faire du fait que vous êtes un geek un atout. C'est-à-dire, trouver les emplois où être geek vous rapporte. D'accord? Trouver des compagnons, que ce soit des amis ou des petites amies, qui soit vont tolérer le fait que vous êtes geek, soit en fait vont être comme vous, mais des gens qui ont un désir quand même d'exister dans le vrai monde. Des amis qui sortent, c'est-à-dire qui sont. Je connais un pote comme ça, je salue d'ailleurs s'il écoute ce podcast. À l'époque de Pokémon Go, il avait créé une communauté Pokémon Go. C'était en région lyonnaise. Et en fait, cette communauté après se rencontrait IRL. Et finalement, ils se sont rendu compte qu'ils prenaient plus de plaisir à se voir IRL, à partager une pizza en discutant de tout et rien, plutôt que de jouer à Pokémon Go. Vous voyez, c'est intéressant quand un peu comme les braves d'ailleurs. Hein. Les braves, ça commence en virtuel et ça finit en IRL. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, quand le virtuel, je dirais, est un tremplin vers ensuite des expériences réelles, il peut être intéressant. Mais en aucun cas, il faut qu'il commande votre vie. En aucun cas, il doit être dans une part majoritaire de ce que vous faites au quotidien. D'accord? Moi, je vous dis, il faut rire de ces trucs-là. Il faut pas que ça vous atteigne un seul moment. Le projet de destruction contre nous, il est connu. On le sait, il n'y a pas besoin de s'en offusquer et de s'en étonner à chaque fois qu'une nouvelle chose arrive. Ça a peut-être l'impression que ça vous a donné quand j'ai dit que j'allais faire un podcast sur Superman. Peut-être vous vous êtes dit, bon, Danny, bah, il va se plaindre de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Ça nous fait chier aussi. Moi, ça me fait pas chier. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que Superman, il n'existe pas. Voilà. Par contre, vos gènes, ils existent. D'accord? Votre bonheur. C'est un sentiment qui existe dans l'univers, qui existe en vous, d'accord? Donc, si ça peut vous sevrer de cette merde qui est les petits paradis virtuels dans lesquels on se refuge parce qu'on n'aime pas notre vie du quotidien, eh ben c'est bien parce que quand on est un Moi, j'ai toujours pensé, moi, je vais vous dire ce que je pense, j'ai toujours trouvé ridicule à 30, 40, 50 ans qu'on aille voir au cinéma des films de super-héros. C'est pour les enfants, d'accord? C'est pour les enfants. Donc maintenant, mes enfants, je leur montrerai soit des œuvres d'ici, parce qu'en Europe de l'Est, il y a une production quand même, soit des œuvres du passé. Je leur expliquerai pourquoi les films d'aujourd'hui, ils sont pas bons. Sans forcément être un Amish, hein. Dès que j'en verrai un bon, bah, je le montrerai à mes gosses, à ma fille, à mon fils. Mais voilà, j'essaierai de leur expliquer la situation. Mais je ferai tout pour que ils orientent leur vie vers leur réussite dans le monde physique et tangible. Hein. Je suis un bureau, je touche ma table de bureau. Si je veux, je peux mettre le doigt dans le nez. Ça existe, d'accord? Superman n'existe pas, donc on s'en fout. On s'en fout, il soit bi, trans, quadrisexuel. On s'en fout. Voilà. Et si ça peut vous mettre une claque. Et que vous compreniez que finalement, bah, la seule chose qui compte, c'est vous, votre réussite professionnelle, affective, vos liens avec votre famille, si elle pense bien, ou la famille que vous allez créer, si vous êtes entouré de gauchistes, c'est-à-dire de nouveaux amis, la communauté, on est là pour ça, les braves.org, on est là aussi pour être votre deuxième famille quand la vôtre est complètement gauchiasse et vous pourrit la vie, littéralement. Votre quotidien, vous pouvez le transformer. Vous savez, c'est... La volonté, ça fait bien des choses. Si vous n'aimez pas votre vie dans une ville, vous pouvez chercher du boulot dans une autre ville. C'est possible, ça, d'accord? Je sais que dans toutes les villes, maintenant, il y a de l'immigration, mais toutes les villes ne sont pas aussi dangereuses, toutes les villes ne sont pas aussi pourries. Dans certaines, vous allez avoir des amis que vous n'en avez pas dans d'autres. En fait, vous essayez d'établir comme ça, soit dans votre tête, soit sur une feuille, vous pouvez le mettre sur papier, qu'est-ce qui vous apporterait du bonheur au quotidien et qu'est-ce qui fera que vous serez satisfait de votre vie. C'est-à-dire, quelles sont les étapes que vous n'avez pas franchies? Vous n'avez pas encore le permis? Ben, il faut le passer. Il vaut mieux passer le permis que de lire par curiosité morbide le nouveau album de Superman gay bisexuel, qu'on n'en a rien à foutre. D'accord? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas touché une meuf? Peut-être jamais de votre vie, ou 3-4 ans? Ben, c'est trop. Ben, c'est peut-être le temps de se remettre sur le marché, les cocos. Peut-être que plutôt que de dépenser 100 balles pour acheter un nouveau jeu vidéo, vous allez aller chez un photographe pro, c'est marrant, personne ne pense à ça. En France, c'est vraiment. Alors, tout le monde fait ça en Europe de l'Est, les mecs comme les filles. En France, personne n'y pense. Et aucune nana me répond sur le site internet. Oui, est-ce que tu as essayé de faire des photos professionnelles, de payer 100-150 balles à un photographe qui te fait les meilleures photos possibles dans des super coins de ta ville? Bah, essaye, tu verras si tu n'auras pas plus de matchs. En réalité, quand on se fixe des objectifs dans le monde qui est le monde réel, eh bien, une partie de ces objectifs, on arrive à les atteindre. Et le simple fait de les poursuivre, vous savez, c'est de la philosophie très, très simple à comprendre, hein, c'est pas du recherché, mais on ne regrette jamais de ne pas avoir réussi, on regrette de ne pas avoir essayé. Le regret, en fait, c'est avoir laissé passer une occasion sans avoir cherché à la saisir. Quand on a préparé un concours, par exemple, et qu'on a bossé à fond, à fond, à fond, à fond, mais qu'on ne l'a pas obtenu, on est déçu, on a du chagrin, mais on n'est pas révolté contre soi. On est révolté contre soi quand on passe volontairement à côté de sa vie. Et je pense que pendant trop longtemps, justement, et les comics, pour en revenir à Superman, avaient cette particularité, mi-bonne, mi-effrayante, les comics étaient parfaits pour les jeunes geeks. Vous savez, c'est cette image du mec qui a la gueule de Bill Gates à 18 ans, qui est fourré dans une librairie et qui lit un épisode de Superman comme ça, avec des grosses lunettes. À double foyer, vous voyez ce que je veux dire, et avec ses trois autres potes geeks à côté de lui, quoi. Bon, ça, c'est une image qui nous est restée en tête, ou même nous, hein, quand on jouait à la NES, quand on était petit. Bon, et ben cette époque-là, elle est révolue. Les geeks aussi doivent un peu se masculiniser, pas dans le sens de la vieilleresque du terme, mais dans le sens où il y a un homme, j'en ai déjà parlé plein de fois dans des vidéos, j'en parle sans arrêt dans Super Ninave, un homme doit suivre certaines étapes de vie. Activité, comment dirais-je, activité épanouissante pour l'âme ou travail. Je dis, c'est pas que je distingue les deux, mais je veux dire, parfois on peut avoir une activité qui est peu rémunératrice, mais qui nous fait nous lever le matin. D'ailleurs, c'était mon cas jusqu'à ce que je gagne ma vie, c'est-à-dire en fait de 2009 à 2016. En fait, je faisais la même chose que maintenant, mais sans gagner de l'argent. Cependant, non seulement j'avais pas l'impression de rien faire, mais je ne faisais pas rien. En fait, c'est un travail. Mais je dirais passion, voilà, passion ou travail, c'est ça la vie. Trouver sa passion, trouver son travail. Comme en fait nous sommes marginalisés dans la société, quel que soit votre domaine de compétence, choisir la voie, les métiers, les métiers d'avenir dans lesquels vous avez potentiellement le plus de gains d'argent possible, d'accord? Suivre ça comme un objectif. Voilà, essayez d'avoir la même rigueur dans cette recherche-là que vous l'avez parfois pour trouver un film qui vous intéresse sur T411 ou je ne sais quel site de torrent. Voilà, c'est l'énergie, en fait, on l'a, hein, souvent on la met au service de mauvaises choses. Si votre quotidien est insupportable, je veux dire concrètement, changez de ville, trouvez un endroit où même si vous avez chaque jour, vous devez faire plus de transport pour vous rendre à votre boulot, eh bien au moins votre maison, l'endroit où vous vivez, ça sera un endroit vivable, d'accord? Et s'il faut faire 20, 30 bornes ou carrément changer de région en France ou de pays, ce que j'ai fait pour être plus heureux, vous pouvez le faire ça. D'accord? La plupart des gens qui m'écoutaient, vous n'avez pas plus de 70 ans. Donc, vous avez entre 15 peut-être et 50, 60 ans. Vous pouvez encore changer votre vie. Il ne tient qu'à vous d'en décider. Et autre objectif que tout homme et toute femme doit avoir, trouver un partenaire. Je vais insister avec ça, hein, mais je suis plus tradit que ce qu'on croit. Pour moi, la vie n'est pas accomplie quand on n'a pas un partenaire de route et qu'on ne crée pas avec lui un quotidien, puis ensuite des enfants. Donc voilà, c'est le virtuel gauchisé vous met une baffe. Vous êtes envoyé à l'autre bout de la pièce. À l'autre bout de la pièce, bah c'est fantastique parce qu'il reste le vrai monde. Et il n'y a que celui-là qui existe en réalité. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je crois que j'ai fait une émission qui était très vivifiante, mais qui était un peu bordélique. Cette émission sera disponible sur le groupe pour rester en contact avec Conversano. Si vous tapez dans recherche Telegram pour rester en contact avec Conversano, vous allez trouver ce groupe. Je la mettrai demain en ligne dessus et je mettrai un lien sur mon canal pour écouter cette émission. On se retrouve dans 2 semaines sur Telegram pour un autre podcast audio, mais d'ici là, bien sûr, dans de nombreuses vidéos. Vous savez, pendant un mois, j'étais en Ukraine, j'ai pas beaucoup, produit beaucoup de vidéos. Je suis reparti aux manettes, j'ai beaucoup de projets. Voilà, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Les amis, je vous quitte parce que ça fait déjà 1 heure et je voulais pas faire trop long. Merci de votre qualité d'écoute et pour ceux qui n'ont pas réussi à écouter l'émission ou qui la prennent comme ça en cours de route, eh bien la rediffusion sera disponible, je vous dis, dans les 24 heures. Bonne soirée, je vous aime fort. Ciao, ciao.